Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Comme je vous le disais, notre deuxième sujet va parler un petit peu de télécommunication.
Ah oui.
Il y a quelque temps, on avait, lors de ta dernière venue, parlé de la norme HDMI. Et beaucoup de gens avaient découvert un peu les coulisses de... Qu'est-ce qui se trame finalement chez les constructeurs, les histoires de licences, les trucs comme ça. Et tu nous avais teasé, en fin de discussion, tu nous avais teasé que, en fait, à côté de la norme HDMI, il y a des trucs beaucoup plus, en réalité, beaucoup plus intéressants dont il faut absolument parler.
On voit ton carnet sur le plan large, juste pour info.
On voit le carnet, mais
pour ton info.
Est-ce qu'on voit le texte? Tu nous dis.
Non, regarde, on voit comme ça.
Regarde. Ça va?
C'est pas grave.
Ok, ça va, tout va bien.
Je veux pas avoir des problèmes avec tes avocats.
avec la CIA. Ou... Et justement, sujet, c'est pas n'importe quel sujet dont on va parler aujourd'hui. S'il y a un sujet qui suscite tous les fantasmes les plus fantaisistes, c'est bien la 4G et la 5G. Mais...
Celle qui donne le Covid ou pas?
Justement, les thèmes dont on va parler aujourd'hui sont certes moins impressionnants que certaines théories du complot, mais réels et en réalité tout aussi préoccupants et intéressants. Parce qu'en fait, peu de gens le savent, mais derrière la fabrication des puces dans nos téléphones se cache une industrie fascinante de brevets et de licences détenues par quasiment un seul acteur. On va revenir avec toi, Jean-Baptiste Kempf. Je le redis pour la VOD, tu es le co-créateur de VLC et tu t'intéresses de très près à ces sujets. Alors pour mettre un peu de contexte en commençant, imaginons que là je suis un industriel, je veux me mettre à créer des téléphones. Voilà, on va les appeler les underphones. Comment est-ce que je ferais pour intégrer une puce modem? Quelle serait la marche à suivre pour commencer?
Tu appelles Qualcomm. Et là Qualcomm te dit, je te parle pas tant que tu signes pas mon contrat de licence. Et là tu dis, mais attends, je veux juste avoir des informations sur quelle puce, qu'est-ce que je peux avoir. Tu signes mon contrat de licence. Et il ferme la porte.
Et là, je vais voir quelqu'un d'autre.
Tu n'as personne d'autre pour aller voir. Parce que toi, tu veux vendre un téléphone dans le monde entier. Et ça, c'est, tu te rends compte que Apple, le jour où Apple va lancer son iPhone, son premier iPhone, ils vont voir Qualcomm et Qualcomm leur dit signe mon contrat de licence et leur ferme la porte au nez. Et il y a une interview du mec qui est donc le head of procurement, donc le chef des achats d'Apple, qui dit, en 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que pour te donner une idée, Qualcomm a un pouvoir absolu sur tout ce qui est 3G, 4G, 5G.
Surtout que quand on connaît Apple, on sait que s'ils ne sont pas contents d'un fournisseur, genre Intel, ils disent « bon bah c'est pas grave, on se démerdera tout seul, on fait nous-mêmes ». Et là, non.
Non, c'est impossible. Aujourd'hui, il y a un tel système de brevets qu'en fait, et des pratiques complètement anticoncurrentielles qui font qu'en fait c'est quasiment impossible et d'ailleurs ça n'arrive pas que tu puisses aller en compétition avec Qualcomm.
Est-ce que ça a toujours été comme ça?
Alors non, parce qu'en fait il faut savoir qu'au niveau de la 2G, ce qu'on appelait le GSM, tu vois, il y avait deux systèmes qui s'appelaient, un le GSM qui était le système français, enfin européen, et tu avais le CDMA qui était le système en fait américain. Ces deux systèmes qui fonctionnaient différemment, et quand on est passé en 3G, en fait c'est pour des raisons de gros sous, en fait c'est le système CDMA qui a eu beaucoup plus d'influence. Et ce système CDMA, techniquement, il avait des avantages pour un pays comme comme les États-Unis, beaucoup moins comme des endroits denses comme en France. Mais beaucoup de choses qui sont arrivées sur la 3G, le LTE, la 4G, la 5G, le 3,5G, 4,5G, le HDCSPA, enfin tous les trucs où personne ne comprend rien. Tout ça, en fait, fait que Qualcomm a augmenté en fait sa prise de position de façon plus importante, en ayant en fait fait beaucoup d'investissements, de recherches à l'origine. Hein. Mais c'est toujours comme ça. C'est juste que à l'origine, en fait, c'était à peu près faire. Et puis ensuite, ça l'est devenu beaucoup moins.
Mais dans ces cas-là, il n'y a pas de loi antitrust et tous ces trucs-là qui rentrent en jeu?
Et oui, mais il faut que le gouvernement ait envie d'attaquer.
Ok, donc ils ont un petit passe-droit, quoi.
Par exemple, la liste des pratiques un peu anticoncurrentielles de Qualcomm, la première chose, c'est que tu payes la licence en fonction du prix de ton téléphone.
Et non pas de la puce.
Et non pas de la puce.
What?
Exactement. Donc par exemple, quoi? Aujourd'hui, si jamais tu suivais les trucs, ton iPhone, tu donnerais, en plus de l'achat de la puce, hein, en plus de l'achat de la puce, hein, c'est des fees en plus, tu paierais entre 25 et 30 dollars sur ton iPhone.
Ouais.
C'est quand même pas négligeable.
Alors iPhone, que tu vois,
par exemple, donc, aujourd'hui, Apple a dénoncé, ils sont à 7-8 dollars. Mais en fait, si c'était faire comme toutes les autres puces, ça devrait coûter 1 dollar, 1,50 dollar. Donc ils font juste 1 x 12.
Ok.
Mais c'est une dinguerie. Mais
le deuxième truc qu'ils font.
Il y a d'autres composants qui marchent comme ça, qui sont proportionnels
au. Jamais. C'est jamais entendu. Le deuxième truc, c'est que quand tu signes ton contrat de licence, que tu dois signer avant qu'ils commencent à te parler, tu dois payer un pourcentage sur l'ensemble de tes téléphones, qu'ils aient ou non une puce Qualcomm. Donc là, c'est absolument génial. Donc toi, on va dire qu'on invente un nouveau téléphone qui s'appellera le Mi Phone. Et donc, je suis fabricant du Mi Phone. Et donc, j'ai 50% de mes téléphones qui ont besoin d'une puce Qualcomm parce que, notamment, si tu veux avoir certains pays, en fait, il n'y a que Qualcomm qui a les bonnes certifications pour les bonnes fréquences. Et 50% du reste du monde, où tu vas décider que tu vas utiliser un chipset Intel, par exemple. Et bah, tu devras payer sur l'ensemble.
D'accord.
Donc en fait,
c'est du racket.
Oui. C'est du racket. C'est du racket. Surtout que finalement, le prix de la licence coûte plus cher que le chipset. Donc ça veut dire qu'en fait, tu vas payer deux fois. Donc qu'est-ce que tu fais? Bah voilà.
Parce qu'en fait, du coup, Qualcomm, eux, ils ont à la fois des licences et à la fois des puces. C'est ça.
Et en plus des modems. Donc, vraiment, c'est ce. En fait, ça s'appelle des modems. Hein, faut le savoir. Okay. C'était comme en ADSL, c'était comme en 56K. Ce qui parle. Donc, ce qui s'appelle les radiofréquences, hein, pour le 2G, la 3G, la 4G, la 5G, c'est un modem. Et puis, en plus, il y a un truc génial, c'est Qualcomm, en plus, ils vendent des CPU ARM. Donc, si jamais tu achètes les deux, oh bah, t'as un prix de rabais.
Il y en a des sûr.
Ah, c'est trop bien. Et voilà. Et en plus, alors, donc ça, c'est encore une autre pratique anticoncurrentielle. Il y a une autre pratique qui est assez rigolote, qui est que tu ne peux pas licencier juste ce dont tu as besoin.
Toi, tu vas dire.
Bah, je veux dire, moi j'ai un téléphone qui fait que 4G, je veux pas payer les brevets de 3G. Ah bah tu peux pas.
Tu prends tout.
Tu
quoi.
Payes, c'est exactement ce dont on avait parlé sur le multimédia et Dolby, c'est-à-dire que tu es obligé de payer la licence globale. Donc tu payes, voilà, sans avoir le choix. Et ça, de toute façon, tu le signes au moment où tu fais le petit truc que t'as dû signer avant de commencer à discuter.
Mais ce qui est fou, c'est que normalement, il y a un moment, ce genre de truc te retourne en pleine figure, entre guillemets. Ça.
Quand
si jamais. On a déjà observé des situations où une pratique, si quelqu'un, si t'abuses entre guillemets de ta position, il y a un moment, il y a l'underdog, il y a celui juste en dessous entre guillemets qui en profite pour.
Il y a personne en dessous.
Bah, t'avais dit qu'il y avait GSM en face à la base. Ils sont devenus quoi?
En fait, c'est tout ça, c'est des gros consortiums, c'est comme le multimédia, c'est des normes et en fait tu te mets d'accord sur la norme. Donc en fait, c'est toute la partie de standardisation. Donc en fait, tu Et pareil, il y a un truc qui en général se fait, c'est qu'en fait, dans tout ce cas-là, s'il y a quelqu'un d'autre, hein, donc par exemple un fabricant genre Intel, il va licencier les brevets de Qualcomm pour faire son propre modem. Parce que t'es obligé, parce que c'est des brevets qui sont essentiels pour la norme. Ben, il refuse.
Salut! Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore. Voilà. Telle une fusée.
Donc là, en fait, t'es dans un cas où, en fait, de toute façon, t'as pas le droit d'utiliser les choses. Et d'ailleurs, ils se sont fait attaquer. Donc il y a eu une énorme bataille. Donc Apple, en 2005, là, quand ils ont fait le premier iPhone, ils avaient cette discussion. Mais depuis, en fait, en 2016, 2017, 2018, 2019, jusqu'à 2020, il y a eu une énorme bataille. Puisqu'en fait, on parle de chiffres d'affaires qui sont en dizaines de milliards de dollars par an. Hein, c'est de ça dont on parle. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Apple a commencé à dire que c'était vraiment abusé. Notamment, je pense que c'était au moment de l'iPhone, le premier SE ou le premier X, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'était 2016. Et donc, ils ont notamment résisté. Apple est capable de faire ça. Et donc, ils ont fait faire des modems. Et donc, c'est à l'époque 4G par Intel. Puisque Intel, grosso modo, aujourd'hui, il y avait Intel à l'époque, il y avait évidemment Huawei et il y avait Qualcomm. Et donc, ils sont allés voir Intel. Et pendant plusieurs. Il y a plusieurs téléphones Intel qui ont Téléphone iPhone qui était avec des modems Intel. Et là, il y a une bataille, des batailles dans les tribunaux, mais monstrueuses, avec notamment des brevets qui ont été invalidés de Qualcomm, parce que évidemment, tu vois, on te fait signer, mais notamment quand tu signes, on te dit que t'as pas le droit d'attaquer. Tu vois, c'est des trucs anticoncurrentiels, donc t'as même pas le droit de regarder et de dire attends, mais ce brevet, j'en ai pas besoin, ce brevet, ça n'existe pas, ce brevet. Donc, il y a eu beaucoup de batailles. Et à un moment, ce qui s'est passé, c'est que Apple s'est rendu compte que Intel allait avoir du mal à livrer sa puce 5G, son modem 5G. Et donc, bah, Apple, en fait, même Apple, hein, est un peu revenu la queue entre les jambes, si je peux me permettre. Et donc, aller voir Qualcomm. Et donc, en 2019, ils ont fait un deal avec Qualcomm.
Ils ont coupé la poire en deux, en gros. En mode, il n'y a pas une histoire comme ça où ils...
C'est ça. Donc, finalement, je crois qu'aujourd'hui, ils reversent 7$ ou 10$. Il y a eu un... etc. Mais pour donner une idée de ce que ça a donné.
Purée.
Le lendemain, trois jours plus tard, quand Apple a effectivement dit que, bah, en fait, ils avaient signé un deal pour arrêter toutes les poursuites mondialement. Et donc, contrairement à ce que les gens disent, hein, Apple n'a pas perdu le procès. En fait, ils ont fait un agreement hors courte, donc hors procès. Mmh. Et le lendemain ou le jour d'après, Intel a dit « j'arrête mon business de modem ».
Ah oui, donc c'était vraiment que Apple qui pouvait...
Donc, ça veut dire... Et qu'est-ce qui a fini ? Ça a fini par la... Donc Intel a dit ensuite, je vends ma division modem. Et qui l'a acheté ? Apple. Ouais. Donc c'est pour tenir. En fait, c'est absolument délirant de...
Et donc j'imagine qu'ils l'ont racheté dans l'espoir d'un moment peut-être à obtenir une indépendance ou...
Non, je pense. Bah non, parce qu'en fait, ça veut dire qu'eux arrivent quand même à faire leur puce 3G, 4G, 5G pour leur iPhone, basé sur le truc Intel qu'ils ont intégré dans leur nouvelle puce, etc. Mais quoi qu'il arrive, ils payent la licence.
Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, et si même Apple n'arrive pas en réinjectant...
Donc tu dis que Apple, c'est clair, la boîte la plus riche au monde, ou en tout cas pas loin, n'est pas capable de résister à Qualcomm...
C'est mort, quoi. Ça va être compliqué.
C'est compliqué.
Mais comment ça se fait ? J'y connais rien, évidemment, mais qu'est-ce qu'il y a d'aussi difficile dans ces brevets et ces licences ?
Alors en fait, et c'est ça que les gens refusent de comprendre, parce que ça a l'air très simple, en fait, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses... Tu vois, par exemple, en 4G, bah, tu vois, ouais, ça a l'air simple, la 4G. C'est très compliqué. Il y a beaucoup de fréquences, il y a beaucoup de modulations, il y a beaucoup de fonctionnalités. Il faut que tu puisses passer d'une antenne à l'autre, il faut que tu puisses mesurer la vitesse pour pouvoir passer, etc. Mais tu as des trucs genre la voix VoLTE, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu téléphones et que tu es en 4G et que tu n'as pas la VoLTE, en fait, ton modem, il déconnecte de 4G, il redescend en 3G parce que pour envoyer la donnée, quoi. Quand tu vois des SMS, ça... Voilà. Donc, il y a énormément
de complexité. Quoi. Mmh.
Même en niveau 2G, c'était très compliqué. Il y a beaucoup de fonctionnalités. Les SMS, le changement d'antenne, une antenne qui s'éteint, un handover, etc. Donc, tu as beaucoup, beaucoup de fonctionnalités qui sont compliquées. Et à chaque fois que tu as une nouvelle norme, ça augmente ton complexité. Et surtout, en fait, ce que tu vois, c'est que... Et ça, c'est le même problème que tu as dans le multimédia avec MPEG, avec dont on a parlé HDMI. Tout le monde pousse ses fonctionnalités, comme ça, ils ont un brevet. Comme ça, ils découpent une part du gâteau du licensing. Et donc, tout le monde essaye. Donc, sauf que, bah, évidemment, Qualcomm est hégémonique sur la partie 4G, donc ça marche moins bien que dans le multimédia où tout le monde rajoute son truc. Mais tu as énormément de features sur la 5G. Par exemple, la 5G, normalement, t'es capable... Ton téléphone, il est capable d'aller discuter avec deux antennes pour faire du balancing. Donc ça, c'est une feature. Et deux antennes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, de l'autre côté, il faut que tu aies un serveur qui puisse envoyer les deux données et que ça revienne derrière. Donc ça veut dire que tu as une façon intelligente, il faut que tu aies un cœur de réseau intelligent. Là, tu rajoutes un brevet. Tu vois ? Par exemple, là, aujourd'hui, tu vois, tu as des problèmes de réseau. En fait, tu vois, si jamais tu voulais envoyer à la fois tes données en même temps, une partie sur la 5G et une partie sur la fibre, bah, ça, c'est breveté, tu vois, par exemple. Et donc ensuite, il faut que tu aies un cœur intelligent, etc. C'est pour ça que, par exemple, faire une antenne 5G, c'est pas très compliqué. Par exemple, il y a des boîtes françaises qui ont refait une stack 5G, une boîte qui s'appelle Amarisoft, par exemple.
Okay.
Mais pour faire un cœur de réseau 5G, c'est très compliqué parce qu'en fait, c'est des antennes intelligentes, finalement. Et tout le monde parle. Voilà. Et donc, tu imagines que toutes les fonctionnalités, par exemple en 5G, tu vois, par exemple sur ton iPhone, tu as un mode où tu peux envoyer plus de données, tu as un système de burst de données, tu as un système de compression, tu as énormément de corrections d'erreurs. Tu vois, par exemple, quand tu perds un paquet pour qu'on soit capable de refabriquer, quand même, ta communication avec ton antenne, elle est quand même chiffrée. Donc, tu as des trucs genre ODFM, etc.
Beaucoup. Plein de trucs qu'on voit pas.
On voit rien de tout ça.
Tu vois rien de tout ça. Et surtout, tu n'utilises pas tout. C'est-à-dire qu'en fait, ouais, mais la 4G en France, elle utilise le QAM comme ça, le ODFM comme ça, le machin comme ça. Ouais, mais sauf qu'en fait, Et c'est la force, par exemple, de Qualcomm, c'est qu'ils ont des brevets sur l'ensemble de la planète. Et c'est souvent, d'ailleurs, il y avait un article, il y avait un mail qui a leaké dans les procès, où grosso modo, le head of marketing, il disait, de toute façon, ils n'ont pas le choix de passer par nous s'ils veulent un modem international. Donc, aujourd'hui, tu vois beaucoup de choses. Par exemple, tu as beaucoup de téléphones qui sont chinois, qui ne marchent que en Chine.
En Chine, ouais, putain.
Et voilà. Et en fait, et surtout, en plus, tu comprends pas trop, parce que il y a beaucoup de pipeaux sur les normes. Tu vois, par exemple, entre la 3G, la 3G+, le H, HDSPA, le H+, le 4G qui n'était pas de la 4G, le 4G LTE, le 5G, le faux 5G, parce qu'en fait, et en fait, ouais, y a beaucoup de normes qui en fait sont des normes de normes, etc. Donc, aujourd'hui, voilà. Et il faut quand même comprendre que la physique, elle est compliquée. C'est quand même, c'est de la physique des ondes, ça se base tout ça sur les équations de Maxwell, hein. Ça se démonte, mais tu vois, par exemple, une des raisons pour laquelle la norme 3G, parce que la norme 3G, elle date d'il y a très très longtemps, hein, c'était, c'était vraiment les téléphones tout pourris, je sais pas si vous voyez, ce téléphone fait par Orange, qui avait un écran couleur, c'était la révolution à l'époque. Et en fait, ils se sont rendus compte que la première 3G, tu sais, ça permet de faire des vidéo calls, personne n'a jamais réussi. En fait, les équations de propagation, elles n'ont jamais été vraiment retestées. Il y a un mec qui les a écrites. Et en fait, ce qui se passait, c'est que le débit s'écroulait une partie dès que tu avais plus de 3 personnes sur la même antenne. Donc en fait, ils ont fait des déploiements en 3G. Et en fait, si tu regardes la vraie 3G, là, celle qui date de 2001, 2002, 2003, ça a été une catastrophe. Tout le monde a investi. Et en fait, la vraie 3G qui a vraiment fonctionné, ça a été la 3G+, puis le H, puis le H+, qui, elle, avait vraiment des débits. Et c'est parce qu'en fait, notamment, les gens,
ils ont fixé les...
Notamment Alors moi, je pense, mais ça, c'est mon avis perso, c'est que les mecs de Qualcomm et tous ces mecs-là ont poussé, en fait, leurs normes qui étaient basées sur CDMA, et en fait, ont complètement menti. Ils savaient que ça fonctionnait pas très bien.
Oui.
Et tu vois, c'est des normes.
La suite.
C'est des équations assez compliquées. Tu dis, bon, ouais, en fait, ce terme, il est négligeable. Alors, c'est vrai que ce terme, il est négligeable quand t'es très proche de la borne et qu'il n'y a pas trop de monde. Mais... Et donc, ça marchait bien aux États-Unis, dans les endroits un peu moins denses, et en France, moins. Ouais. Et puis, je ne sais pas si tu te souviens, pendant très longtemps, tu te souviens, Bouygues, tu sais, Bouygues, ça fonctionnait mieux que SFR et que, à l'époque, Orange, c'était Itineris, etc., parce qu'ils utilisaient des fréquences plus élevées qui passaient mieux les villes. Mais par contre, ça voulait dire qu'il fallait mettre plus d'antennes, tu vois, et donc à chaque fois, tu as différentes normes. En fait, ça s'appelle 3G, c'est 20 normes.
Moi, je pense qu'il y a un truc qui peut être intéressant, c'est de donner quelques chiffres pour voir un peu l'ampleur du phénomène. Je crois que en moyenne, les constructeurs de téléphones, si j'ai les bons chiffres, avaient environ 3% du prix de vente qui revenait à Qualcomm sur leur smartphone. C'est le chiffre moyen, apparemment, des coûts de licence sur un constructeur de smartphone.
Ouais, ça me semble même un peu faible.
Peut-être que c'est un lissage et qu'en fait, c'est surtout les petits téléphones pas chers. Mais...
Sur un iPhone à 800 dollars.
Ça avait une dizaine d'euros.
Ça faisait 20 euros, 20 dollars, donc ça faisait 1 sur 40, 2,5 quoi. Ouais, 2,5%. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ok, j'achète.
Et
ça, c'est juste pour les brevets, hein. Sans acheter le modem.
Et ce qui est le plus fou, c'est que alors que pourtant ça représente un tiers de leur chiffre d'affaires, c'est deux tiers des bénéfices de Qualcomm. Bien la vente sûr. De licence.
Bien sûr. Mais c'est comme dans le multimédia, hein. Là, on repart sur MPEG et ce que je connais un peu mieux. Que ces histoires de Qualcomm, les sommes, elles sont très élevées, quoi. Et d'ailleurs, en fait, ce qui est rigolo, c'est que, par exemple, là, il y a un problème, tu remarqueras, il y a un problème de brevet sur Netflix qui a des problèmes de brevet sur le HEVC en Allemagne. Et en fait, c'est... alors, je ne sais plus si c'est Broadcom ou Qualcomm. Enfin, c'est des gens, en fait, qui sont... Donc, en fait, individuellement, tu as toujours Broadcom, Qualcomm, Ericsson et Nokia, qui, eux, sont plutôt sur la partie 3G, 4G. Mais en fait, ils ont des brevets sur le multimédia. Et eux, ils ne rentrent pas dans ce qu'on appelle les patent pools. Donc, en fait, quand Netflix, ils achètent HEVC, ils achètent un patent pool. Mais eux, ils sont hors patent pool. Et donc, en fait, ils arrivent à dire, au fait, moi aussi, j'ai des brevets. Donc, en plus, ils sont aussi là à pourrir le multimédia. Voilà, c'est sur Broadcom. Et donc, c'est pour ça que moi, je connais... Finalement, je suis rentré dans ce monde du 3G et 4G parce qu'en fait, tu te rends compte qu'effectivement, pour le H.264 ou le HEVC encore plus, tu as les patent pools habituels et qui sont relativement raisonnables. Hein. Tu vois, c'est juste qu'il y en a beaucoup de codecs, donc c'est là où c'est abusé. Et puis, il y a des gens qui abusent totalement comme Dolby, comme Qualcomm. Mais en fait, eux aussi, ils ont des brevets. Donc là, Broadcom, ils ont commencé à attaquer Netflix en Allemagne. Et en fait, c'est plutôt des gens qui font de la 3G. Et quand tu dis, je veux licencier tes brevets, ils me font, ah oui, mais en fait, il faut licencier toute ma sac 3G et 4G et 5G. Et je fais, non, mais moi, je fais pas de téléphone.
La vidéo à la base.
Ah oui, mais non. Et donc, en fait, c'est des gens
tu
qui sont...
dans un magasin, faut tout acheter ou rien du tout.
Non, mais surtout, en plus, je te rappelle que c'est des pourcentages du prix total de vente.
Oui, en plus.
C'est pas du tout du pourcentage, etc. Ouais.
Tu posais la question pour les histoires de régulation, d'antitrust, etc. Ouais. Effectivement, en fait, t'as pas mal de pays et de régulateurs qui scrutent de très très près quand même ce qu'ils font.
Ah oui.
En février 2015, Qualcomm a accepté de régler 975 millions de dollars pour mettre fin à une procédure du régulateur chinois pour abus de position dominante.
Il y a eu aussi un en Corée.
Ah, ça négo.
Où ils ont aussi perdu.
Oui, mais 766 millions en 2016 en Corée du Sud.
Voilà,
exactement. Ils peuvent se permettre ça, c'est tranquille, quoi.
Tranquille, oh, ouais, t'inquiète pas.
Oui, un milliard, ciao.
Oui, tenez, allez.
Mais par contre, je crois qu'ils ont gagné avec le régulateur japonais, en particulier parce que les mecs en face avaient mal préparé leur copie. Ils ont perdu des brevets en 2018, 2019, 2020, 2021 contre Apple, même si Apple avait arrêté. En fait, ça a été repris, etc. Ils ont perdu aux États-Unis. Mais en fait.
En gros, c'est la guerre, quoi.
Ils sont tellement gros qu'ils arrivent à tenir, en fait.
C'est ça, ils acceptent
La guerre, elle est finie, quoi. C'est-à-dire que là, Qualcomm a dit, OK, voilà. Et donc, Apple a racheté le business des modems d'Intel. Mmh. Voilà, t'as juste les Chinois qui continuent parce que, justement, là, avec le fight un peu avec les Américains qui arrivent et qui continuent dans la tech, ils ont vraiment développé leur stack, etc. Mais ouais, sinon, tout le monde a arrêté, quoi.
Et encore, pour l'instant, on parlait de tout ce qui se passe sur les puces des smartphones en eux-mêmes. Mais je sais qu'il y a pas mal de questions qui tournaient aussi sur la provenance des antennes. On a beaucoup parlé avec l'arrivée de la 5G, de l'importance de Huawei et du développement du développement en Europe et des questions que ça pose en termes de sécurité, de souveraineté, etc.
Alors, on va y revenir, mais juste une petite remarque, et c'est juste un truc un peu rigolo à voir. Quand tu achètes un Galaxy S20, S22, etc., tu as en général deux modes. Tu as le mode Exynos, qui est donc la puce fabriquée par Samsung, et tu as le mode Qualcomm. Et notamment aux États-Unis, c'est toujours la puce Qualcomm, parce que Samsung n'a jamais réussi à licencier pour ses propres chips. Alors Samsung, qui est peut-être le numéro 2 de fabricant, et c'est pour ça, c'est qu'ils n'ont jamais réussi à licencier les brevets aux États-Unis. Donc aux États-Unis, ils ne se prennent pas la tête, c'est Qualcomm.
C'est dingue. Mais je me suis toujours demandé pourquoi il y avait deux versions de leur putain.
Ils ont deux versions, ouais.
Et donc l'origine, c'est ça.
C'est qu'ils ont... En fait, c'est comme un sparadrap, t'arrives pas à t'en défaire.
C'est exactement
c'est
ça.
Dingue. Alors,
voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les brevets. Pour ta deuxième question, qui était en fait justement le problème lorsqu'on est arrivé sur la 5G, qui est donc justement la 5G, outre le fait que ça donne le Covid, c'est une façon d'avoir un vaccin, ça nous permet de nous traquer, etc. La 5G a plein de choses très très intéressantes et qui sont globalement mieux faites que la 4G et que la 3G. Et notamment, on peut faire... notamment, on n'a pas cette histoire de VoLTE, de reswitching, etc. Donc, en fait, si ton téléphone pouvait faire que de la 5G, il consommerait globalement beaucoup moins.
Je savais pas. Voilà. C'est plus optimisé.
C'est plus optimisé. T'as des modes en fait de basse énergie où tu envoies que. Voilà.
Bon. Mais aujourd'hui, on doit garder les anciens résultats. Pour les appels vocaux, les SMS, trucs comme ça.
Ouais, et puis surtout, en fait, t'as pas de la couverture 5G partout, tu vois. Et puis, enfin, je sais pas comment ça marche chez vous, mais moi, quand mon téléphone il passe en 3G, j'ai plus aucune donnée qui passe. Hein. C'est absolument ridicule, tellement.
Mais je me suis toujours demandé d'ailleurs si c'était pas un peu un scam.
Oui, c'est pour toi.
Ouais, c'est exactement.
Pour être sympa, quoi.
En fait, si tu regardes et que tu fais un speed test, tu vois qu'il y a encore quelques octets qui passent, mais enfin, c'est absolument abusé, quoi. Mais. Ouais. La 5G, donc ce dont on a parlé, est très compliquée. Notamment, il y a plein de fonctionnalités qui font que tu peux, tu vois, ton smartphone et ton antenne, en fait, peuvent calculer leur distance et peuvent te dire, l'antenne dit, va te connecter à cette antenne-là qui est sur cette fréquence. Donc, en fait, ton téléphone, au lieu de chercher partout quand il fait du roaming, quand tu te déplaces, il sait directement à qui il va parler. Voilà. Mais donc, tout ça, en fait, te demande un cœur de réseau intelligent. C'est-à-dire qu'en fait, de l'autre côté, toutes les antennes, il faut qu'elles soient toutes branchées à des énormes serveurs. Et ces énormes serveurs, évidemment, c'est des dizaines de millions de lignes de code, des centaines de millions de lignes de code. Et tu n'as aucune idée de ce qui s'y passe. Parce qu'en fait, Huawei arrive avec leur truc, Nokia arrive avec leur truc, Ericsson arrive avec leur truc, et tu n'as aucune idée de ce qui s'y passe. Et donc, il y a un problème, notamment parce que, évidemment, ce sont des endroits qui prennent des centaines de gigabits par seconde, hein, parce que la 5G, tu arrives vite à 400 mégabits par personne, donc tu vois, ça commence à faire... Et donc, si jamais il y a 20 mégabits qui sont envoyés en Chine, tu vas le noter ? Non.
Ça ne verra jamais.
Voilà, exactement. Ouais. Donc là, il y a eu quand même un... Et puis surtout, bah, les Chinois ont commencé à être un peu plus agressifs en sécurité. On l'a vu avec l'histoire de Cicada, mais globalement. Et donc là, il y a quand même quelques personnes qui sont fait... finalement, utiliser les antennes Huawei, c'est peut-être un petit peu dangereux.
Qu'est-ce qui va...
Tu veux mon avis ?
Bah, non. Moi, j'ai vu, évidemment, ces discussions emballer beaucoup de gens à l'époque. Je n'ai aucune idée de si jamais ça a été freiné ou si jamais... À l'heure actuelle, on aura.
Non, mais il y a plein de gens qui font. Il y a plein de pays qui ont vraiment scaled down leur déploiement Huawei de façon très importante. Et ZTE et Huawei. En particulier parce que et ZTE et Huawei se sont fait prendre la main dans le sac en train de justement pirater des gens importants.
Et wow. En France, c'est le cas ou.
Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui est déployé en France. Mais je pense que, ouais, on va faire. On a. Réduit la quantité de Huawei et on va continuer.
Ce qui paraît logique.
Et après, si vous voulez mon opinion, moi, ça me semble évident. Enfin, les Européens sont d'une naïveté catastrophique par rapport aux agences et américaines et chinoises. Il est évident que tous ces trucs sont intégralement noyautés. Ce sont des centaines de millions de lignes de code, personne ne vérifie ce qui se passe. C'est évident que c'est noyauté.
Bon, eh ben...
Donc la 5G pas si sécu quoi.
Non parce qu'en fait tu peux très bien.
Ça va vite.
D'ailleurs ouais, tu vois tu vas.
Ça va vite.
Non mais attends les trucs.
On live avec donc.
J'ai ok. Moi je doute pas des capacités de Ericsson et de Nokia d'avoir des trucs tout à fait corrects.
Oui bien sûr.
Voilà juste le truc chinois moi j'y crois pas.
Enfin, ok.
Je sais même pas Ericsson c'est quelle nationalité.
Et bah ça doit être suédois maintenant.
Je sais pas du tout en vrai.
Si le chat peut nous confirmer.
Je pense qu'il y a un piège dans le. Justement.
Il nous faut des modems Alcatel.
Alors, Alcatel qui s'est fait complètement eu, comme d'habitude, les Français qui ont fait une fusion avec Lucent. Et évidemment, c'est les Américains qui étaient la plus petite, alors que Alcatel avait toute la bonne techno. En fait, s'est fait complètement bouffer par Lucent. Et ça a été justement un signe, je pense, ça a été racheté par Nokia ensuite. Est-ce que c'est Nokia.
Donc, Alcatel est devenu Nokia.
Est-ce que c'était le truc en forme de Raymanta verte bleu-vert, là? Le modem,
oui, tout à fait.
C'était
exactement.
Ça. J'ai adoré celui-là, il est incroyable.
Moi, je connaissais surtout les téléphones, mais.
C'est un modem, non, c'était un alien.
Comment tu dis une Raymanta? Mais non, mais c'était un alien, tu pouvais la prendre, elle se mettait comme ça, elle s'appliquait exactement comme un alien.
J'ai décidé que le design, c'est une Ray.
C'est vrai.
Donc, en régie, tape modem Ray. Et c'est une Ray, Wanadu, machin, Alcatel.
C'est un alien qui est là pour te bouffer la tête.
C'était incroyable. Sur le bureau, quand j'étais petit, c'était le modem. Incroyable.
La fameuse règle de 3, choisir des équipements chinois pour protéger des Américains, choisir des équipements israéliens pour se protéger des Chinois et choisir des équipements américains pour se protéger des Chinois.
Regarde-moi ça.
J'aime bien cette remarque parce qu'effectivement, une des bonnes solutions, en fait, c'est de. Parce qu'évidemment, les gens qui sont très forts en hacking, etc., c'est évidemment les Israéliens, les Chinois et les Américains. Donc, être capable justement de mixer est plutôt malin.
De prendre à tous les râteliers finalement.
Ou alors d'acheter français.
Ou alors d'acheter français. Mais alors, pour déployer de la 5G, bonne chance.
Non, mais tu peux pousser, par exemple, je pense qu'il y a quelques boîtes qui sont capables aujourd'hui de fabriquer des stacks 5G performantes. Il faut juste investir. Hein.
C'est ça.
Des sous, ouais.
Des thunes. Moi, je suis épuisé, mais c'était vraiment passionnant.
Hyper intéressant.
Deux heures et demie.
Ouais,
bravo, Basti, d'être resté jusqu'ici.
Bravo
à tous ceux dans le chat, puisque quand même, c'est des sujets qui sont assez techniques.
Ouais, on avait dit qu'on ferait pas trop technique. Je pense que
ça va.
Ça va, j'ai fait moins pire que la dernière fois, quand même.
Franchement, il y a un mix assez cool.
Bon, ça va.
Et avec des petites illustrations, des schémas, tout ça, ça va aller.
Moi, je pense que
c'était super cool. Hyper intéressant, surtout les anecdotes là. Je pense que, franchement, ça en ravira plus d'un.
Ouais.
Et sans plus de transition, je vous propose d'arriver à la fin de cette émission. N'hésitez pas à follow cette chaîne Twitch. On se retrouve dans tous les cas dans deux semaines, mercredi 19h, où je serai moins malade.
J'espère pour toi.
Et on n'a pas fait des gros bisous tout à l'heure à Mathieu, qui est parti après la première partie. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis pour cette soirée. Merci à toi, JB. Tu es toujours le bienvenu ici, évidemment.
Merci de m'inviter. Hein.
Et j'espère peut-être une prochaine fois pour d'autres sujets. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée.
Bonne soirée, merci beaucoup.
Tchuss.
Merci beaucoup. Ciao tout le monde.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.